Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est consacré donc aux facteurs de risque cardiovasculaire associés au diabète. Les facteurs de risque cardiovasculaire constituaient l'ensemble des facteurs qui participaient à la maladie athéroscléreuse. La maladie athéroscléreuse étant liée à la formation de plaques au niveau de plaques d'athérome au niveau de la paroi des artères. Ces plaques sont constituées elles-mêmes de dépôts de cholestérol associés à des cellules inflammatoires et des cellules de la circulation et des cellules sanguines. Et ces plaques, si elles évoluent, peuvent rétrécir peu à peu les artères, en fait la lumière des artères, voire les obstruer et provoquer des complications cardiovasculaires. Ces complications peuvent être d'ordre cardiologique, telles que l'infarctus du myocarde ou l'angine de poitrine. Et puis, il peut y avoir aussi des complications vasculaires, et notamment l'accident vasculaire cérébral et l'artérite, l'artériopathie des membres inférieurs. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire sont divers et reconnus pour entraîner, favoriser la pathologie cardiovasculaire. On connaît l'implication de l'âge et de l'hérédité. Ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut malheureusement pas agir. Mais on sait également que, outre le diabète, l'hypertension artérielle, les excès de cholestérol, le tabagisme et puis la sédentarité, l'obésité favorisent les maladies cardiovasculaires. Voilà, donc je commencerai par répondre sur la première partie de l'émission aux questions qui ont été posées durant la semaine par les internautes sur notre page Facebook. Et la deuxième partie de l'émission sera consacrée à la réponse à vos questions que vous aurez posées en direct. Donc je vous laisse d'ores et déjà poser toutes vos questions. Et donc je vais commencer avec une question de Robert qui nous a demandé quelles étaient les principales maladies cardiovasculaires rencontrées chez le patient diabétique de type 1 et de type 2. Donc je vous l'ai dit, en fait il s'agit de l'infarctus du myocarde, donc de la coronaropathie, c'est-à-dire de l'atteinte des artères coronaires. Les artères coronaires sont les artères qui vascularisent le cœur. On a parlé également de l'accident vasculaire cérébral et puis de l'artériopathie ou artérite des membres inférieurs. Nous avons eu une question de Marie également qui nous disait que certaines publications annonçaient que les patients diabétiques avaient une probabilité 2 à 3 fois plus forte que le reste de la population de développer une pathologie cardiovasculaire. Est-ce que je suis d'accord ? Effectivement, Marie, on l'a vu, hein, le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire et chez le diabétique de type 2, il est souvent associé à d'autres facteurs de risque et tous ces facteurs participent à favoriser lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, la pathologie cardiovasculaire. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont chez le diabétique la première cause de mortalité. Donc le sujet diabétique est particulièrement touché par ce type de complications, tout en sachant que ces dernières années, on a quand même pu assister à un recul de la mortalité cardiovasculaire grâce notamment au dépistage précoce et à la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition de molécules de thérapeutiques intéressantes, notamment chez le diabétique, telles que les analogues du GLP-1 ou les inhibiteurs du SGLT2 dont on a parlé, on a beaucoup parlé sur nos émissions, qui ont montré des effets intéressants sur la protection cardiovasculaire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Marie. Patricia nous a demandé ce qu'on appelait le syndrome métabolique qui provoque la résistance à l'insuline. Alors, il y a plusieurs définitions du syndrome métabolique. L'une des dernières en date, c'est la définition de la Fédération internationale du diabète qui considère un tour de taille de plus de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme associé à deux autres facteurs pour définir le syndrome métabolique. Ces deux autres, associés à au moins deux autres facteurs. Ces autres facteurs sont l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie à plus de 1 g par litre, l'excès de triglycérides à plus de 1,50 g par litre et la baisse du HDL cholestérol. Le HDL cholestérol, c'est ce qu'on appelle également le bon cholestérol. Donc si le HDL cholestérol est inférieur à 0,40 g par litre chez l'homme et 0,50 g par litre chez la femme, il intègre la définition du syndrome métabolique. Donc, tour de taille augmenté, c'est-à-dire morphotype androïde avec une répartition viscérale des graisses associée à au moins deux autres facteurs que je viens de citer. Afida, vous me demandez si le diabète est corrélé à un risque d'hypertension artérielle. Effectivement, Afida, on l'a vu, hein, le diabète, le diabétique de type 2 est souvent en surpoids ou en obésité ces pathologies sont associées à un risque plus important d'hypertension artérielle. Il faut savoir également que le diabétique a plus de risques de syndrome d'apnée du sommeil et que l'apnée du sommeil favorise également l'hypertension artérielle. Donc il faut penser à le dépister chez les patients en surpoids diabétique et qui décrivent des signes évocateurs. Alors, nous allons continuer par la question de Kader. Kader, vous nous demandiez quelles mesures hygiéno-diététiques conseillez-vous pour un patient diabétique afin de réduire les risques cardiovasculaires ? Alors, Kader, j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir une alimentation équilibrée comme ce que je pourrais conseiller pour n'importe quel patient, qu'il soit diabétique ou non. Donc alimentation équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir dans l'assiette une part de légumes. On considère en général qu'il est bien d'avoir la moitié de l'assiette composée de légumes. D'avoir également une portion de protéines au repas et une portion de féculents. Donc vous savez qu'il est recommandé de consommer par jour 5 portions de fruits et légumes. On conseille également chez le diabétique de limiter la consommation d'aliments d'index glycémique élevé, c'est-à-dire les aliments qui font monter rapidement la glycémie. Donc tout ce qui a un goût sucré, vous en doutez, fait monter rapidement la glycémie. Mais il faut savoir également que le pain blanc, les pâtes blanches, riz blanc sont... moins intéressant chez le diabétique que les glucides complexes tels que le pain complet, pâte complète, riz complet, qui font monter la glycémie moins vite puisqu'ils ont un index glycémique plus faible. Donc on vous conseille, dans le cadre de cette alimentation équilibrée, de privilégier des aliments, des glucides complexes et puis de privilégier des aliments riches en fibres. Donc que vous allez pouvoir trouver dans les fruits et légumes, mais également dans les céréales complètes. De favoriser également la consommation d'acides gras insaturés. Les acides gras insaturés, vous les trouvez, ce sont les oméga 3, oméga 6, oméga 9, vous les trouvez dans les poissons gras, dans les noix, les huiles de lin, de colza, huile de noix, huile d'olive, huile de tournesol. Huile de pépins de raisin, voilà, ce sont des huiles qui sont intéressantes à privilégier pour favoriser une bonne santé. Et puis, il faut limiter les aliments riches en acides gras saturés ou en acides gras trans. Donc, pour les acides gras saturés, vous avez la charcuterie, le fromage, le beurre, la crème. Voilà, et puis pour les aliments riches en acides gras trans, vous avez les viennoiseries, notamment les pâtisseries, donc il faut essayer de limiter ces aliments-là. Bien évidemment, il faut faire attention au sel, puisque une alimentation salée peut induire, peut aggraver une hypertension artérielle. Donc faites attention au sel. Et puis on vous conseillera également de limiter votre consommation d'alcool et de ne pas fumer. Voici les conseils diététiques, d'hygiène de vie en général, qu'on peut donner à un patient diabétique, mais qui s'applique également au tout venant. Et puis, il faut également favoriser une activité physique régulière. Du coup, cela débouche sur la question de Marc, qui me demande « Une activité physique intense chez le patient diabétique peut-elle engendrer un risque accru de problèmes cardiovasculaires ?» Alors, Marc, avant de pratiquer une activité physique intensive, lorsque l'on est diabétique, il est important d'en parler à son médecin pour voir s'il est nécessaire, avant de se remettre à une activité physique, de faire un bilan cardiologique pour s'assurer que vous ne présentez pas de coronaropathie silencieuse. La coronaropathie, on a vu que c'était l'atteinte des artères coronaires. On appelle ça également l'ischémie myocardique silencieuse. Et chez le diabétique, il n'y a pas forcément de symptômes. Donc si vos artères coronaires sont rétrécies ou bouchées, vous pouvez avoir, lorsque vous allez vous mettre à faire de l'activité physique, surtout si elle est intense, un risque majoré de complications cardiaques. Donc, dans ce contexte-là, on vous conseillera de faire un dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse à l'aide de votre diabétologue qui peut vous prescrire un score calcique. Votre médecin traitant peut également vous le prescrire. Ou de consulter un cardiologue qui envisagera d'autres explorations telles qu'une épreuve d'effort, une échographie de stress, voire dans certaines situations une coronarographie. Si au niveau cardiologique, vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez alors vous mettre à réaliser une activité physique régulière. Donc il est conseillé chez le diabétique comme chez le non-diabétique de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine ou 75 minutes au moins par semaine d'activité physique type endurance un peu plus intense. Voilà, donc ce sont les préconisations. Ensuite, nous avons une question de Jamel et d'Eric, des questions qui se rejoignent un petit peu. Et vous souhaitez savoir, est-ce qu'il y a des examens qui peuvent nous permettre de dépister un problème avant l'accident vasculaire cérébral et à quelle fréquence le réaliser ? Donc, effectivement, chez les diabétiques qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui nécessitent un dépistage des complications cardiovasculaires, on va être amené à réaliser, après avoir ausculté les carotides qui se trouvent là, les artères du cou, à la recherche d'un souffle, le souffle marquant un rétrécissement de l'artère, on va être amené à réaliser une échographie, un échodoppler des artères du cou qui va nous permettre de savoir s'il y a un rétrécissement, qu'on appelle également une sténose de cette artère qui doit être prise en charge. Donc voilà la façon de dépister une complication à ce niveau. Est-ce qu'il faut le réaliser annuellement, pluriannuellement ? Tout va dépendre de ce qu'aura trouvé l'angiologue. S'il y a un rétrécissement de l'artère, une sténose, peut-être qu'on vous proposera de surveiller, de réaliser l'examen de manière régulière tous les 6 mois, voire parfois tous les 3 mois si le rétrécissement est plus important. Si maintenant tout va bien et que vos facteurs de risque sont parfaitement contrôlés, on peut être amené à espacer les contrôles à tous les 3 ans. Donc ça, c'est à préciser auprès de votre médecin ou de votre diabétologue. J'ai ensuite une question de Carla qui me demande si l'usage de l'aspirine en prévention secondaire ou primaire chez le diabétique permet de diminuer les risques cardiovasculaires. Donc Carla, il faut savoir que l'aspirine fait partie intégrante, enfin les anti-agrégants plaquettaires au sens plus large, vous avez l'aspirine, vous avez aussi le clopidogrel et il y en a d'autres, font partie intégrante du traitement du diabétique en prévention secondaire, puisqu'ils ont montré une réduction de la morbimortalité chez les patients qui étaient en prévention secondaire, mais également en prévention primaire à haut risque cardiovasculaire. Alors, il n'est pas toujours, en fait, pour préciser le risque cardiovasculaire chez un patient en prévention primaire, on peut, outre l'association des facteurs de risque que l'on va recueillir à l'interrogatoire et puis à l'examen clinique, réaliser chez un patient, dans le cadre du dépistage de la coronaropathie, un score calcique. Si cela vous intéresse, vous avez un article qui a été mis en ligne cette semaine sur le site Diabète 66, sur le score calcique, qui vous explique ce que c'est. Et le score calcique permet de dépister des patients à haut risque cardiovasculaire. Et chez ces patients-là, qui sont en prévention primaire, l'aspirine et les antiagrégants plaquettaires peuvent également avoir un intérêt pour réduire les complications cardiovasculaires et la morbimortalité. Voilà, j'espère avoir répondu clairement à votre question. Jessica, vous nous demandez si des glycémies équilibrées chez un diabétique de type 1 protègent du risque cardiovasculaire chez un patient diabétique en l'absence d'autres facteurs de risque. Oui, si votre diabète est parfaitement équilibré et que vous n'avez aucun autre facteur de risque, vous avez évidemment bien moins de risque de faire une complication cardiovasculaire. Voilà, je vais maintenant passer aux questions qui ont été posées en direct. Alors, Ingrid, vous me dites, votre fils a 14 ans, il est diabétique depuis 18 mois. Si ses glycémies sont stables, peut-il éviter ce genre de complications dans le futur ? Oui, Ingrid, justement, plus on va équilibrer un diabète tôt, moins il y aura de complications. Il y a des études qui l'ont montré, donc voilà, il ne faut pas perdre de temps et essayer d'équilibrer le diabète de la meilleure façon possible dès le début. Et si le diabète est équilibré, qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque associés ou qu'ils sont parfaitement contrôlés, on diminue bien évidemment le risque cardiovasculaire. Alors Marie, vous me demandez s'il existe un régime alimentaire efficace pour éviter le risque de complications. Ben, je l'ai largement détaillé un petit peu plus tôt. Donc si vous n'avez pas eu le temps ou que vous venez de vous connecter, je vous laisse peut-être voir l'émission en replay. Voilà, j'ai parlé du régime et puis de l'activité physique. Alors, Jean, vous nous dites comment faire la prévention des complications ? Quelle est la meilleure conduite à suivre ? Examen, consultation, hygiène de vie. Donc, pour l'hygiène de vie, je vous fais la même réponse qu'à Marie. Pour ce qui est des examens, alors déjà, avant de parler des examens, comme on l'a dit, il faut dépister, il faut que votre médecin traitant, votre diabétologue régulièrement recherche les facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis vous, si vous fumez, il faut bien évidemment arrêter de fumer. Donc les facteurs de risque cardiovasculaire, on l'a dit, hein, tabac, diabète, hypertension artérielle, les excès de cholestérol, ce qu'on appelle les dyslipidémies, hypercholestérolémie, et puis l'âge et l'hérédité. Sur l'âge et l'hérédité, on ne peut rien. Sur les excès de cholestérol, donc on va faire réaliser chez un diabétique une fois par an un bilan du cholestérol qu'on appelle bilan d'anomalie lipidique et rechercher une élévation du LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol. Si le LDL cholestérol est en dehors des cibles, vous savez peut-être que pour les patients diabétiques, nous avons des recommandations sur le niveau de LDL cholestérol à obtenir en fonction de leur niveau de risque cardiovasculaire. Si le LDL cholestérol est en dehors de la cible, à ce moment-là, on va vous proposer, outre les mesures hygiéno-diététiques, de mettre en place un traitement par statine pour faire baisser ce LDL cholestérol. Si la statine n'est pas suffisante ou n'est pas contrôlée, on aura d'autres options thérapeutiques. Ensuite, les examens de dépistage. Ah oui, pardon, on a parlé donc du cholestérol, de l'hypertension. Donc, à la consultation, votre médecin traitant vous prend la tension. Et si elle est trop élevée, il va vous conseiller de mettre en place une hygiène de vie adaptée en réduisant bien évidemment le sel, la consommation d'alcool et en privilégiant les aliments riches en fibres. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. De perdre du poids également si vous êtes en surcharge pondérale. Ça peut permettre de diminuer l'hypertension artérielle et puis de dépister si nécessaire un syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant, si vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire qui nécessitent de bénéficier régulièrement d'explorations complémentaires, vous aurez droit à un dépistage au niveau cardiaque. Donc, au niveau cardiaque, on peut vous prescrire soit un score calcique, c'est-à-dire un scanner du cœur sans injection, qui va déterminer, qui va quantifier les calcifications au niveau des artères coronaires et déterminer un score qui nous permettra de dire si vous êtes à faible risque de développer une complication cardiaque ou si vous nécessitez des explorations complémentaires à réaliser auprès d'un cardiologue. Le score calcique n'a pas d'intérêt par contre chez le patient qui est en prévention secondaire, qui a déjà fait une complication cardiovasculaire. À ce moment-là, ce patient-là sera suivi régulièrement par son cardiologue. Pour ce qui est des artères du cou et des artères des jambes, votre médecin va pouvoir ausculter donc les artères du cou avec son stéthoscope à la recherche d'un souffle qui indique une sténose, un rétrécissement de l'artère. Et au niveau des artères des jambes, il va vous palper les pouls au niveau des trajets des artères pour voir si le sang passe bien. Et puis, il pourra vous prescrire un échodoppler des artères du cou et des artères des jambes à la recherche justement d'une sténose de ces artères nécessitant un bilan complémentaire, voire une revascularisation, une dilatation de l'artère ou un pontage. Donc Catherine, vous me dites, en cas de diabète gestationnel, est-ce qu'il y a un risque de problème cardiovasculaire? Alors Catherine, le diabète gestationnel en fait est diagnostiqué pendant la grossesse. Dans la plupart des cas, il régresse après la grossesse, donc il n'y a pas majoration du risque cardiovasculaire durant la grossesse. Kader, vous me dites, le diabète peut provoquer des complications digestives, des cancers, anévrisme. Alors, on va rester, je suis désolée Kader, aujourd'hui on restera sur le sujet parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, on restera sur le sujet qui sont les facteurs de risque cardiovasculaire. J'ai une question de Nordine qui me demandait si certains traitements hypoglycémiants étaient délétères sur le plan cardiovasculaire. Alors Nordine, pour répondre à votre question, il y a quelques années, en 2008, est parue une étude intéressante qui s'appelle l'étude ACCOR, qui a comparé deux groupes de patients, un patient qui bénéficiait d'un traitement antidiabétique standard et un patient qui bénéficiait d'un traitement un peu plus agressif, un traitement intensif, avec un niveau d'hémoglobine glyquée beaucoup plus bas, si je ne me trompe pas, c'était inférieur à 6%. Et pour obtenir ces niveaux d'hémoglobine glyquée avec ce traitement intensif, on a mis à ce groupe de patients des sulfamides hypoglycémiens et de l'insuline pour atteindre les objectifs. Et on s'est rendu compte, l'étude a été arrêtée prématurément parce qu'on s'est rendu compte que les patients du groupe intensif avaient une mortalité plus élevée que dans le groupe standard. Alors, il faut savoir que c'était des patients qui étaient à haut risque cardiovasculaire, très haut risque cardiovasculaire. On a expliqué en fait ce sur-risque par certainement des hypoglycémies qui étaient bien plus importantes dans le groupe traitement intensif et qui étaient délétères chez des patients à haut risque au niveau comment dire, mortalité cardiovasculaire. Donc, effectivement, ce qu'on a conseillé par la suite, c'était que chez les patients qui sont indemnes de complications cardiovasculaires, chez qui on vient de découvrir un diabète, on peut, et il faut même, chez les patients nouvellement diagnostiqués qui n'ont pas de problème particulier, équilibrer au maximum le diabète. Alors, pas viser une hémoglobine glyquée à moins de 6%, on a des recommandations à moins de 7, voire 6,5%. Voilà, maintenant le patient qui a déjà fait des complications cardiovasculaires, il ne faut surtout pas aller l'intensifier rapidement. Il faut que ça se fasse beaucoup plus progressivement, en maintenant une hémoglobine glyquée peut-être un petit peu plus haute, parce que s'il y a hypoglycémie, il y a plus de risques à ce niveau-là. Maintenant, tout ça, c'est bien évidemment, mes propos sont à pondérer, c'est-à-dire que je ne dis pas que les sulfamides et l'insuline sont délétères, loin de là, hein, ne retenez pas ça de ce que je viens de vous dire. Il y a certaines situations où il est intéressant et important d'équilibrer un diabète et de mettre des sulfamides et de l'insuline. Lorsque on a déjà essayé la metformine, les analogues du GLP-1, les inhibiteurs des DPP-4, enfin des molécules qui ne provoquent pas d'hypo et qu'on n'y arrive pas, que le diabète est toujours déséquilibré, on peut être amené à mettre en place de l'insuline. Et à ce moment-là, il faut ou des sulfamides hypoglycémiants qui peuvent arriver même un petit peu plus tôt dans la stratégie thérapeutique, mais il faut arriver à équilibrer le patient avec des objectifs glycémiques qui seront définis par le médecin, tout en évitant les hypoglycémies. Voilà, j'espère que le message est clair. Le traitement doit être de toute façon toujours individualisé pour chaque patient, selon les recommandations en vigueur et selon l'état clinique du patient, les facteurs de risque, l'âge. Donc je pense que nous arrivons au terme de notre émission. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.